Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant Luchon Festival avec L2. Bonjour Sacha.
Bonjour Vanessa.
Le Luchon Festival. Bah oui, mais non, pas de 2026. Eh oui, L2 était présenté en compétition en 2025. Bah on l'a attendu, hein. Ce téléfilm, c'est vrai que on se posait la question, voilà, quand est-ce qu'il allait sortir, et ça y est. Alors vous pouvez déjà, vous avez déjà pu le découvrir pour certains, pour ceux qui ne peuvent attendre la sortie sur France 2. Et depuis le 9 avril, vous avez pu voilà, le regarder. Et pour ceux qui attendent avec impatience sa sortie sur France 2, ça y est, c'est bon. C'est le mercredi 22 avril à 21h30 que sera diffusée L2. Deux femmes, la cinquantaine, tous les oppose. Leurs conditions sociales, leur vécu, leurs origines. Malgré leurs différences, elles vont s'allier pour un même projet intime et viscéral, obtenir la garde de leur petit-fils à son retour d'un camp de prisonniers djihadistes. Deux femmes, un enfant, trois destins liés indéfectiblement. C'est un film qui ne va pas vous laisser sans émotion, sans pensée, sans questionnement. Ça fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Ce jeu d'actrice incroyable de Sylvie Testu et Myriam Serba qui forment un duo, mais vraiment du feu de Dieu, tellement impressionnant. Eh bien que pour le festival Créa TV T de 2024, il y a eu le prix de la meilleure comédienne qui a été remis au duo Sylvie Testu et Myriam Serba. Et puis, eh bien, pour le Luchon Festival, où le film était en compétition, même chose, meilleure interprétation féminine, le duo Sylvie Testu et Myriam Serba. Et aussi, un autre prix qu'a obtenu L2, c'est le prix de la meilleure musique par Léo Castel et Johan Chirescu. Pardon. Et c'est vrai que, oui. Mérité amplement pour ces interprétations folles de Sylvie Testu et Myriam Serba qui sont complètement opposées dans ce film réalisé par Renaud Bertrand et scénarisé par F. Castro et Sylvain Saada. Franchement, dans le rôle de Sandrine, dans le rôle de Asna, elles essaient toutes les deux de tirer la couverture et vont s'allier pour le bien de leur petit-fils, Hicham, qui est joué aussi divinement par le jeune Kassim Lemaître. Alors, autour d'eux, eh bien, vous avez Adèle Ben-Chérif, qui joue le rôle de Samir. Vous avez Cypriane Gardin, qui joue le rôle de Vanessa. Cyril Brice, qui joue le rôle de Bernard. Audrey Chameau, qui joue le rôle de Marianne Cordier. Pierre Cartonnet, qui joue le rôle du capitaine de la DGSI. Jean-Baptiste Jezek, qui joue aussi le rôle de du capitaine de la DGSI. Vous avez Jérôme Baylen, le compagnon d'Asna. Omar El Assaoui, qui est l'un des membres de l'association Famille Réunie, Lessem Maïdi, qui joue l'imam, Alexis Volis, qui joue un employé d'hôtel, et voilà d'autres que vous allez découvrir en regardant ce film poignant. Et comme je le disais, hein, ça ne vous laissera pas du tout. C'est un drame assez fort qui sera diffusé le mercredi 22 avril à 21h30 sur France 2. Et qui est assez, assez impactant, assez... Il y a des scènes très très fortes. Et ce qui est fou, c'est qu'au Luchon Festival, on a pu rencontrer... pas mal de monde du casting, dont Myriam Serba et le jeune Kassim Lemaître, mais aussi le réalisateur, eh bien oui, Renaud Bertrand, et oui, la productrice du film, Mathilde Mufang. Et je vous propose d'écouter leur interview que j'ai réalisée avec mon collègue et ami, et aussi pour Bulle de Culture, dont je ne faisais pas partie à cette époque, et qui s'appelle Jean-Christophe Nurbel, qui est le rédacteur en chef de Bulle de Culture.
Alors la première question, c'est que c'est un film qui n'est pas anodin. Vous abordez un sujet qui est un gros sujet, et vous l'abordez d'une façon à hauteur humaine. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, parce que du coup, c'est, vous le rendez concret et on ne reste pas dans le côté politique. Enfin, vous abordez la problématique de rapatriement des enfants djihadistes.
Oui.
Alors d'où vient cette idée et comment elle était
Alors au départ, c'était le scénariste, un des deux co-scénaristes, Sylvain Saada, qui avait envie de... C'est venu quand il y a eu le premier retour des... combattants djihadistes et leur procès, donc à partir de 2018-2020, où on s'est dit ça pourrait être intéressant de parler de, justement du retour de ces combattants, mais l'idée c'était de faire autour de la fiction, et on avait trouvé intéressant de parler peut-être des familles, des répercussions que ça a dans les familles. Mais assez vite on s'est rendu compte que si on essayait de travailler autour de ces procès, forcément quand même les personnages centraux seraient les combattants, et qu'en fait on n'avait pas envie de les glamouriser ou de les starifier ou d'en faire, parce que ça devenait compliqué de trouver le bon regard sur eux. Est-ce que si on expliquait leur parcours, on allait les excuser? Comment est-ce qu'on allait s'emparer de tout ça? Et donc, on s'est dit qu'on n'avait pas trouvé le bon prisme. Et il est revenu vers moi 2 ans après, à peu près, en me disant « Voilà, je crois que j'ai trouvé la bonne idée. » Parce qu'il avait vu un reportage avec, justement, une jeune grand-mère dont la fille ou le fils, je ne sais plus, était partie faire le djihad. Et il y avait un petit enfant. Et cette femme... voulait se battre pour récupérer la garde de cet enfant. Et tout d'un coup, il m'a dit, ça me paraît le bon prisme. Et on s'est dit, en effet, ça nous permet de parler du djihad d'un point de vue complètement à hauteur humaine, et surtout du point de vue de ceux qui n'y sont pour rien. C'est vraiment les victimes collatérales. C'est-à-dire ces deux femmes, le fils de l'un et la fille de l'autre, sont parties faire le djihad. Elles n'étaient pas d'accord, ou elles n'ont pas poussé. Elles étaient même contre. Et pareil, ce petit garçon, il est parti, il est né là-bas. Ils n'ont rien demandé. Et tous ces gens se prennent de plein fouet la décision plus ou moins folle ou radicale de gens qui les ont projetés malgré eux dans quelque chose d'extrêmement violent. Et eux n'y sont pour rien, mais ils vont devoir vivre avec ça de façon très prégnante. Voilà. Et du coup, en fiction, on s'est dit que c'était un bon moyen, parce que c'est toujours ça qu'on cherche à faire quand même, d'être concernant. Et que donc le public pouvait s'identifier, c'est-à-dire que ce sont des gens extrêmement banals à qui il arrive ça, ils n'ont rien demandé et leur vie est bouleversée. Et voilà, et ça pourrait tous nous arriver. Ça aurait pu, maintenant, c'est un petit peu derrière nous, le départ des jeunes en Syrie, mais enfin, pour rejoindre Daesh, je veux dire. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous que tout d'un coup, un de nos enfants se radicalise et s'en aille. Et qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Voilà. Et donc, c'était aussi l'axe qui intéressait France Télévisions, parce que c'est toujours important en fiction d'avoir des personnages humains et concernants et identifiants.
C'est ce qu'on ressent quand on lit le scénario, quand on prend connaissance du scénario, de ce côté de ces grands-mères qui se retrouvent prises. Alors, elles s'entendent pas, elles ont ce côté un peu...
Elles sont très différentes.
Voilà, elles ont des vies complètement différentes, une façon de voir les choses. Et il y a ce petit garçon qui arrive, et du coup, elles se retrouvent prises entre deux feux par rapport à une décision. Et là, elles vont se battre pour lui, corps et âme, et s'investir et s'unir.
Voilà, vous avez tout dit.
Pardon. C'est vrai, des fois, je fais trop.
Ah, mais c'est formidable. Oui. Enfin, c'est, c'était l'enjeu voilà, de ces deux personnages, de pouvoir récupérer l'enfant qui finalement n'avait rien demandé et dont elles vont être, elles, tout faire en tout cas pour pouvoir le récupérer et être responsable et pouvoir voilà, lui éviter le pire, déjà en le rapatriant, en faisant tout pour essayer de le faire venir. Et donc, oui, dans le scénario, c'était évident. C'était évident que tout était déjà bien écrit et que c'était un sujet, moi, qui me touchait aussi. Enfin, je ne connaissais pas du tout. Hein. Du coup, je suis vraiment... j'avais déjà vu un reportage là-dessus qui m'avait bouleversée il y a une ou deux années. Et le sujet, quand il est arrivé, je me suis dit, mais c'est fou, parce que c'était un sujet qui m'avait... marqué. Et voilà, je trouve que c'est une direction humaine qui moi, m'intéressait. Quoi.
Donc, qu'est-ce que vous êtes raconté sur le personnage et quel a été le point d'entrée pour vous pour l'incarner?
C'est un peu toutes les grand-mères aussi. Enfin, pour moi, c'était une sensibilité, mais de... évidente de famille, enfin de voilà, c'est son petit-fils, elle a envie de le récupérer, elle est dépassée par les événements, elle n'a pas demandé tout ça, elle est victime elle aussi finalement de la situation. Donc excusez-moi, vous pouvez me redire la question?
Non, qu'est-ce que vous êtes raconté sur elle et s'il y avait eu un point particulier dans la construction du scénario qui est du personnage?
Beaucoup d'éléments déjà dans le scénario pour m'aider à trouver ce qui était Asna. Et après ouais, j'y mets forcément ma sensibilité et mon parce que j'écris beaucoup, moi, en fait j'écris beaucoup sur mes personnages, j'ai besoin de leur raconter leur vie, donc même d'avance celle qui n'est pas écrite mais qui va m'inspirer dans le pour suivre son parcours dans le scénario. Donc j'ai je lui ai fait sa vie et son objectif de pouvoir s'en sortir. C'est une femme qui est un peu mère courage, qui s'est faite toute seule et qui a l'habitude d'affronter, mais sans que ça devienne un drame dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle va garder quand même le sourire, elle va garder... c'est avant tout la vie qui compte. Donc elle va, même si elle est très différente de Sylvie, elle ne la juge pas au départ. Elle a l'habitude de côtoyer des gens qui vont... peut-être perturbant dans sa vie, mais bon, voilà, ça lui passe un petit peu au-dessus. Elle affronte tellement des choses qui sont plus pour elle évidentes. Donc ça en fait quelqu'un qui a un petit peu de force quand même. Voilà, la famille, ça devient quelque chose qui touche profondément et qui rentre dans une petite fêlure. Donc voilà.
J'imagine que le casting pour trouver ce petit garçon tellement adorable et qui nous prend au cœur. Franchement, par son interprétation, ça a dû être compliqué.
Bah non. Non, parce que il faut toujours avoir un petit peu de chance. Hein, non, parce que on a vu plusieurs personnes quand même. On a eu une évidence à un moment donné, quoi. Pas tout de suite, parce que c'est toujours intéressant de voir plusieurs. Personne, là, il se trouve que c'est un enfant pour comprendre. Ça nous aide aussi parfois à cerner le personnage, parce que chacun amène quelque chose de différent. Et moi, je trouvais que Kassim, c'était lui qui incarnait le mieux toutes les facettes de ce personnage, quoi. Voilà. Et parce que ce personnage, il a des moments un peu d'agressivité, il a des moments. Mais ça reste quand même un personnage qui observe, qui cherche, si ça devenait que un personnage agressif, je trouve que ça aurait été une erreur. Parce qu'en fait, ces enfants ne sont pas forcément tout le temps, enfin nous on s'est renseigné, auprès du psychiatre qui les accueille, quoi. C'est des enfants, je vais répéter, mais ce qu'il dit est tellement... il dit en fait que leur problème principal, c'est qu'ils sont séparés de leur mère. C'est avant tout ça leur problème, quoi. C'est bon, et alors évidemment, ils ont subi des traumatismes, des choses, mais après, les enfants sont peuvent récupérer de tout ça. Quoi. C'est, un enfant, il a une forte capacité de récupération, bah, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des enfants qui... Mais c'est vrai que pour l'instant, je crois qu'avec le recul qu'on a, ce sont des enfants qui, a priori, ne posent pas de problème particulier. Et ce sont aussi des enfants... bon, ce n'est pas la question, mais je parle en profite. Ce sont aussi des enfants qui ont une grande soif de faire des choses quand ils arrivent. Parce qu'en fait, les années dans les camps, c'est très limité. Ils ont la télé, vaguement de la bouffe, ils ont froid, l'hiver, chaud l'été. Bon, ils peuvent jouer avec des enfants, mais tout ça, c'est très limité. Et quand ils arrivent ici, ils peuvent faire de la musique, ils peuvent voir des musées. Il paraît qu'ils ont vraiment soif de tout ça, quoi.
Moi, j'avais même lu qu'il y a un pourcentage plus important, enfin très important, d'enfants qui s'en sortent largement.
Totalement.
Et c'est les statistiques qui sont faites.
Mais de toute façon, moralement, c'est très compliqué de leur faire payer les fautes de leurs parents. Donc, c'est ça la question.
Même légalement,
aussi. Oui, oui. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on a une obligation de s'occuper d'eux et de leur donner un avenir.
Mais montrer la difficulté de s'occuper d'eux, parce que aussi le déshabitué de ce qu'il a connu, il faut lui montrer. Enfin, cette figure du commissaire, elle est arrivée assez vite.
Oui, absolument. Dans le scénario, tout de suite, dès le premier synopsis qu'ont écrit les auteurs, il y avait cette fuite comme ça, un petit garçon qui court dans la nuit, et puis les policiers qui l'attrapent, et puis lui qui est mal comme tout, et la rencontre avec quelqu'un qui va lui faire, lui permettre de... En fait, c'est le policier lui sert de vecteur pour exprimer sa colère de façon, comment dire, intelligible. C'est-à-dire qu'il lui demande une solution, ils ont mis ma mère en prison. Voilà, il y a quelque chose qui est insupportable pour lui, et les deux grand-mères, elles ont beau être super sympas et tout faire ce qu'elles peuvent, elles ne lui apportent pas cette solution-là de le sortir, voilà, il a l'illusion, l'espoir que cet homme pourra le faire quelque chose pour lui.
C'est une figure assez paternelle. Masculine,
voilà, plus oui, exactement. C'est la figure masculine et paternelle.
Protecteur et...
Voilà.
C'est et le premier qui le parle dans sa langue aussi.
Voilà, ouais. Et aussi, voilà, aussi, il y a cette connivence où il exprime des menaces et lui le comprend, lui dit « Ah ouais !» Et tout d'un coup, il a un interlocuteur dans tous les sens du terme.
Oui, puis il n'est pas effrayé par son attitude, quoi. Parce que les grand-mères, enfin, en particulier le personnage qui est incarné par Sylvie, ce qui est un peu compréhensible, elle est un peu parfois effrayée par ses comportements, alors que lui, bon, il en a vu d'autres. Quoi.
Justement, ces moments de protection, ces moments de confidence, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il se confie à la caméra, vous avez une telle vision de cette image, de faire passer l'émotion, qui est assez impressionnante. Comment vous avez mis ça en place avec le chef opérateur? Comment vous êtes prévu par rapport aux lumières quand ils sont ensemble tous les deux et qu'ils commencent
avec
au commissariat avec le petit.
Ben ça, c'est un long processus. Hein. Enfin, c'est un vaste processus, je dirais plutôt. Long, hélas, pas très, compte tenu des conditions. Mais non, mais bah, c'est, en fait, c'est ça. Enfin, faire un film, à mon avis, c'est un peu ça. C'est un tout, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois trouver un décor que moi j'avais la chance de connaître. J'avais tourné, c'était le commissariat de Roubaix, en fait.
C'est le vrai.
Oui. Et donc un décor qui évoque quelque chose, même si c'est pas ça que vous faut. Là-dessus, vous focalisez quand vous regardez le film, mais ça génère des choses, des impressions, un décor. Et mais la lumière, pareil, on se parle beaucoup avec le chef opérateur.
Qui est très bon.
Ouais,
il place
ouais.
bien la caméra, il donne bien cette intensité d'émotion et surtout bien cadré d'une certaine
Alors,
manière.
Il fait pas le cadre, mais le cadre, c'est encore autre chose. Mais, non, parce qu'il y en a qui font les deux.
Voilà, mais lui, on avait aussi un super cadreur.
Un cadreur surtout aussi qui comprend exactement ce que je veux, ce qui n'est pas forcément toujours facile, paraît-il. Mais parce qu'en fait, un cadre, que vous soyez là ou là, ça n'exprime plus la même chose.
Non.
Et bah, ça, c'est, voilà, c'est un peu mon travail, normalement. Quoi. Donc ça, c'est une question à la fois d'expérience et d'instinct. Quoi, dans l'œil, on voit. Quoi, on voit si c'est...
Si dans le combi.
Ouais, Je ne saurais pas vous l'expliquer au-delà de ça.
Bah, c'est ça aussi, choisir un metteur en scène et lui faire confiance. Et c'est sûr qu'on a besoin de quelqu'un, on a des histoires, on a tous les outils ou toutes les ressources pour faire un film, et puis il faut que quelqu'un s'en empare.
Mais vous avez raison de dire ça, parce que moi, tout d'un coup, si je vois un plan et que la lumière ne marche pas, pour moi, ça ne marche pas.
Non,
et d'ailleurs, je vais lui dire, ça ne marche pas. Et, tu vois, là, c'est trop éclairé, tout ça, derrière, là, il y a ça. Ça, pour moi, ça ne marche pas.
Ben, c'est comme nous, hein, les acteurs, quand on nous dirige, on sent si ça marche ou ça ne marche pas. On sent.
Tout à fait. Ben, ouais.
T'as pas besoin de grand-chose. En réaction, on part avec toi et on sait où tu vas, on sait où on va, on est sur une énergie comme ça qui
c'est vrai que j'ai une vraie direction après, parce que je l'exprime bien aux gens, ça c'est autre chose.
Mais moi je trouve que aussi.
Mais j'essaie de les entraîner plutôt que de leur parler, quoi, dans un mouvement, plutôt un faisceau d'impressions, je sais pas, c'est un peu, c'est pas très forcément très rationnel, quoi.
Est-ce qu'il y a eu des lectures qui ont été mises en place? Est-ce qu'ils ont pu une lecture? Comment tu t'es senti la première fois
du tournage?
Ouais. Quand tu es arrivé sur ce plateau?
Déjà, j'étais content, un petit peu stressé, mais Mathilde et Renaud, ils m'ont vite. Comment dire, ils m'ont vite
mis à l'aise.
Voilà, ils m'ont vite mis à l'aise et donc je me suis sentie à l'aise avec Mariam et Sylvie.
Et par rapport à l'histoire, comment tu l'as ressenti, toi, l'histoire de ce petit garçon?
C'est triste parce que ils sont en Syrie, ils sont enfermés là-bas dans un camp. Ils peuvent pas en s'en sortir sans aide. Ça veut dire quand Hicham il est revenu en France, enfin il est venu en France, il est arrivé, sans sa mère déjà, c'est triste, il a peur, il est stressé, donc il n'ose pas. Je sais pas comment expliquer.
Il ressent de l'injustice, voilà.
En fait, pourquoi lui? Pourquoi lui et pas les autres? Voilà.
Et comment ça s'est passé, ta relation avec tes deux grands-mères de procuration?
Très bien, ça s'est passé très bien.
Parce que tu leur as fait voir de toutes les couleurs.
Oui. Tu m'en... Quand même, il y a quelques cibles qui sont, on dira pas, mais il y a quelques petits trucs. Tu as pris plaisir à le faire, je suppose.
Enfin, c'est drôle, mais si je fais ça dans la vraie vie,
tu vas te rediscuter.
Voilà. Oui.
Comment vous avez eu l'idée de ces deux grands-mères, de ces deux actrices?
Alors, oui, c'était très... en lisant le scénario. Ça a été une évidence, quoi.
D'accord, tout de suite, si j'étais situé derrière.
Ouais. Après, on a discuté avec une directrice de casting qui était super d'ailleurs.
Et on fait toujours des petites listes de qui pourrait le faire. Et tout de suite, Renaud, il avait une certitude. Moi, je le suivais complètement. Et donc, on en parle évidemment avec aussi France Télévisions, puisque c'est aussi un élément très important pour la chaîne. Les comédiens, ils représentent le film. Ils sont les personnes qui donnent envie, entre guillemets, et tout ça. Et tout de suite, elles ont dit oui, parfait, super, ça serait super, Sylvie Testu, Mariam Tirba. Et là, on leur a fait lire, et elles ont dit oui, les deux, tout de suite.
Ah, on peut s'emballer. C'est un sujet rare, hein. Enfin, exceptionnel
très
aussi.
Rare.
Donc ça, c'était... je trouve que c'est intéressant, en tant que comédienne aussi, de m'engager sur des sujets qui me touchent humainement. Et qui porte un message d'amour aussi sur le plan humain.
On sent aussi le fait qu'à un moment il se questionne, il se demande, parce qu'il se sent bien à un moment donné, s'il a le droit d'être heureux. Alors que sa mère est loin, qu'elle est en prison, s'il a le droit d'avoir ce bonheur.
Mmh. Bien sûr, il y a un conflit de loyauté, je pense.
On se sent très bien dans ton regard. Quand tu es content, tu as le sourire, Et tout d'un coup, tu penses à ce qui se passe et tu te refermes un petit peu.
Ça, c'est très symptomatique, hein, des enfants qui ont des parents malheureux, quoi, qui souffrent, quoi, qui sont en souffrance. Quoi. Ils ont du mal à s'autoriser à vivre. Hein. C'est assez typique de ça. Et pour le casting, pour finir, c'est toujours assez réjouissant, je trouve, de créer un duo.
Oui.
J'adore ça, moi. Et là, pour le coup, j'étais persuadé que ça allait faire, quoi, parce que trouver des duos de personnes archi différentes et bon, d'une part avec qui on a totalement travaillé, parce que, et tellement différentes et tellement voilà, ça c'est toujours fallait vraiment qu'il y ait cette différence entre elles, quoi.
Bah mine de rien, quand même, au fur et à mesure, il y a une sororité qui s'installe,
hein,
et qui est
bien,
très forte.
Ouais, c'est ça qui est bien, mais c'est de nature très différente, quoi, ouais, à la base, quoi.
Mais c'est beau, justement. C'est la différence, ça peut donner quelque chose d'incroyable.
Bah, confiance mutuelle et solidarité, aussi. Tout à fait. Parce qu'on savait qu'on avait, voilà, on parlait des mêmes choses et qu'on ressentait
ce même amour. Ce même,
voilà. Donc, ça...
Et puis, je pense qu'on était tous sincèrement investi dans ce film et dans cette cause, et c'est vrai que dans cette histoire, ouais, en fait, parce 300%. Que cause, c'est une histoire, c'est vrai que c'est pas politique, c'est vrai que en tout cas moi le cinéma politique qui me touche, entre guillemets, c'est un cinéma qui reste comme ça autour d'un, quoi. D'ailleurs, le cinéma anglais, c'est très souvent des films anglais de Mike Leigh, tout ça, c'est pas forcément des grandes histoires de militantisme, de tout ça, c'est décortique, quoi.
Ouais. C'est ça, c'est la force de ce film, je trouve.
Décortique du point de vue de l'humain, ce qui se passe, et forcément, il y a des choses qui ont un rapport avec la politique qui sortiront de là, dans notre réflexion, ou dans notre sensation, ressenti. Quoi.
Mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas d'asséner un message. Et aussi, je pense que les scénaristes, ils avaient à cœur de faire en sorte qu'il y ait aussi de la comédie, de la vraie vie.
Oui,
c'est-à-dire, c'est ça qui est aussi nous. C'est deux vraies femmes, donc elles rentrent en collision sur des petites choses, ou en connivence aussi sur des... Et ça, c'est plus fort, je pense, que des discours qu'on assène, en fait.
Déjà là... La petite scène de la fin, je m'en serais bien passé sur la République.
Okay.
En même temps, ça peut arriver.
En même temps,
oui.
On parle de ça à un enfant. Ça peut arriver.
Oui.
Si.
Et comment vous avez construit la relation avec Sylvie Testu? Comment ça s'est passé sur le tournage?
Moi, j'avais déjà une admiration pour elle en tant que comédienne. D'ailleurs, aussi pour Renaud. Hein, j'avais regardé ce qu'il avait fait et c'était encore plus réjouissant. Et en ballant. Et donc, pour Sylvie, je connaissais donc son travail de comédienne et c'était plutôt déjà chouette de l'avoir en partenaire. C'était quand même le scénario qui m'emballait, qui devait m'emballer pour que la suite vienne. Donc, notre relation, elle s'est faite très simplement. Hein. On est des gens quand même assez tranquilles, je crois. Je sais pas, ça s'est fait naturellement. Donc un rapport extérieur vraiment super, une belle rencontre, et sur le plateau pareil. Donc ça a fusionné. C'était un vrai régal. C'est vraiment, enfin moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Et Sylvie, qui est quelqu'un d'assez intense, c'est ce que j'aime aussi chez elle. Elle est T'es totalement passionnée par Muriel. Totalement. Toutes les scènes d'elle, les voix.
Et puis on les voit.
Captivée. Ouais. Ça, tu le sais pas, parce que.
Non.
Tant comme ça, toutes les 5 minutes. Ouais.
C'est beau, ça. Quand on a un duo qui fonctionne aussi bien à l'écran que dans le vrai, où ils sont là, ils sont toutes les deux émerveillées l'une par l'autre.
Exactement. Et quand ça tourne pas, c'est pas dans l'horloge, elles sont côté ensemble.
C'était dur des fois même de les séparer, de dire bon, alors maintenant, il faut rentrer dans la scène.
Après, on se quitte plus, maintenant on se quitte plus. C'était vraiment canon, vraiment.
C'est enrichissant de faire des festivals, de partir avec le film, d'aller à la rencontre du public.
Ben c'est bien, c'est un grand moment de plaisir qu'on n'oublie pas, avec des personnes, un entourage gentil, adorable, tout ça, c'est très bien. Et oui, c'est bien. J'ai qu'un mot à dire, c'est bien.
Ouais. Et en plus, il y a la neige.
T'as la neige.
Alors qu'il y a.
Est-ce que pour vous, il y a une scène particulière que vous attendiez ou qui s'est passée pendant le tournage ou un moment
Entre tous les deux?
Oui, ou pour votre personnage.
Pour mon personnage tout court?
Oui,
ça. Pour le coup, je trouve que c'était. Il était riche en écriture. Il y a moyen vraiment de pouvoir avoir beaucoup de choses à proposer et des situations plus ou moins fortes émotionnellement. Donc, moi, je trouvais que notre scène. La scène où je te dis que ton père est mort, ça c'était une scène qui était.
Triste.
Ouais, assez costaud quand même. Pour être dans la crédibilité et que ça ne devienne pas de l'hystérie non plus. Et c'est là où aussi, Renaud t'a apporté aussi ta direction qui est, je trouve, remarquable. Parce que ça. Voilà, on sait aussi ce qu'on a à donner. En intensité sans que ça devienne un peu moins intéressant en tout cas au jeu. Et donc ça c'était des scènes très fortes comme ça, celle de la cigarette aussi, c'est des scènes un peu lourdes. Et, moi j'ai une sensibilité aussi sur l'enfant, c'est-à-dire que je me dis c'est pas évident pour lui. Et en fait il emmène ça mais avec une telle facilité et surtout voilà quand ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il a une espèce de professionnalisme et un contrôle de émotionnel carrément incroyable. Donc moi, ça m'a aidé. Et puis après, des vrais moments de joie aussi avec Sylvie. C'est difficile pour moi de les choisir parce que j'ai pris mon pied tout le temps. Sur ce moment-là, il n'y avait pas une fois que je me suis dit, bon, cette scène-là, non. À chaque fois, je me suis dit, bon, on va se régaler. On est bien là, on va y aller. Et c'est, voilà.
Et pour toi?
Mais la scène préférée, c'est. Enfin, émotionnellement, ou préférée, mais c'est quand, au moins, quand on dit qu'on était à la fête foraine. Donc, c'était assez drôle. Parce qu'on a fait ça, comme en fait, on a menti, et le monsieur, en fait, il s'en est pas rendu compte. Et du coup, c'était bien. Parce que ça m'a beaucoup plu.
Mmh. Et pour vous, est-ce qu'il y avait une scène qui était importante ou pour vous qui fallait...
que je redoutais
ouais, ou que vous redoutiez ou que pour vous qui compte qui pouvait être importante pour le film ou ouais, non, peut-être pendant le tournage
quand ils reviennent là, sur l'aéroport tout ça. C'est des scènes. Ouais, parce qu'en fait, faut raconter beaucoup de choses avec peu de mots. Et moi, j'adore ça. Mais voilà, donc faut pas se rater. Et celle-ci.
Oui, la scène de la séparation avec la mère, pour moi,
elle est chiante. Elle est terrible, je pleure à chaque fois.
Si j'ai des poils à chaque fois pour toutes les yeux.
C'est terrible, ouais, ouais.
Pourtant, on est prévenu, parce qu'on nous prévient que ça va avoir lieu.
Oui, mais on est pris dedans. Et puis les interprétations sont vraiment poignantes. Quoi.
Et puis on a. Après, ouais, en travaillant, il y a des choses qui sont venues, mais que vous ne remarquez pas forcément, mais qui, moi, me. Par exemple, que quand il appelle sa mère, il y a les femmes qui sont entourées du GIGN. En fait, ils sont tous masqués de la même manière, que ce soit les femmes ou du GIGN. Et il y a des choses comme ça que je trouve des choses qui...
Ouais, c'est vrai, c'est... Ouais.
Qui m'évoquent, voilà. C'est bien.
C'est troublant. Ouais,
c'est ça. Ça fait pas qu'on le remarque. C'est pour le ressentir.
Ouais, ça c'est... Très intéressant, le fait qu'ils soient tous masqués.
Ouais.
C'est énorme.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous.
Merci
à vous
pour ce moment.
Et merci de votre intérêt.
Oui, c'est intense. Hein. C'est intense. Et puis, de discuter avec eux, le parcours aussi d'Hicham, de ce petit garçon prisonnier qui se retrouve, c'est très très fort, de sa mère, de tout ce qui découle de ces deux mamies qui essayent de sauver leur petit-fils en mettant leur grief de côté. C'est pas tout rose tous les jours. C'est très très compliqué, mais c'est très bien fait. Et je vous invite vraiment à être au rendez-vous mercredi 22 avril à 21h30 sur France 2. Ou, eh bien, si vous n'êtes pas assez patient, d'aller découvrir ce film sur la plateforme France TV. Il est disponible depuis le 9 avril. C'était Chaud Devant, Luchon Festival, avec L2. Merci à l'équipe du Luchon Festival, merci à l'équipe du film, l'actrice Meriem Serba, le jeune Kassim Lemaître, la productrice Mathilde Mufang et le réalisateur Renaud Bertrand. Et rendez-vous, oui, mercredi 22 avril sur France 2 à 21h30 pour voir L2. Taste, taste, taste. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me